Jacques Séguéla, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Martinique.
Vous êtes présent à la Martinique pendant quelques jours. Vous pouvez nous donner l'objet de votre visite?
L'assassin revient toujours sur le lieu de son crime. Il y a 30 ans, 92, j'étais venu ici créer notre première agence DOM-TOM, notre agence au-delà des mers. Moi, j'aime les îles, parce que les îles ont toujours des mystères, les îles ont leurs secrets, leurs îles ont leurs différences. Et puis, elles sont libres, elles sont coupées de la terre. Ce sont des bateaux qui ne dérivent pas, mais qui voient la mer. Qui voit la mer de tous les côtés. Et la mer leur apporte beaucoup de choses. Et donc, j'étais venu en me disant, mais cette île, elle est protégée des attaques du marketing, elle est protégée des attaques économiques, des attaques politiques de Paris, de l'influence américaine. Donc, elle va pouvoir réinventer quelque chose, réinventer la pub, et y mettre son âme. Y mettre un peu sa pureté, y mettre sa virginité. Elle n'est pas encore dépravée par l'hyperconsommation. On voit d'ailleurs ce que c'est devenu. Et donc c'était tous mes espoirs. Et ça a marché. Et l'agence a démarré. Elle a été créative. Et ça a bougé. Et puis après, il y a eu la grande crise. La publicité n'aime pas les crises. Dès qu'il y a crise, elle a mal au foie, elle s'en va.
Alors, quand vous avez ouvert cette agence il y a 30 ans, elle s'appelait comment? Et vous l'aviez fait à l'époque avec quel partenaire?
Oh là, j'ai complètement oublié les noms. Rappelle-moi son nom, je le connais, je le vois, mais je suis incapable. Elle s'appelait Aval. Non, elle s'appelait Euro-RSCG. Non, elle s'appelait RSCG.
RSCG, d'accord.
Elle s'appelait RSCG. C'était juste avant notre mariage avec Eurocom, qui a donné Euro-RSCG. Et notre grand mariage d'amour avec le groupe Bolloré, qui a donné le changement de nom en Havas, car Charles Havas est l'inventeur de la publicité. C'est un Français qui a inventé la publicité il y a 182 ans. C'est pas un Américain, c'est pas un Anglais. Il a inventé l'agence de presse, l'AFP, qui existe toujours, Reuter, qui existe toujours. Deux ans après, la première agence média, et deux ans après, la première agence de pub, et il a fait sa première annonce.
À l'époque, c'était quoi? C'était un deal pour, disons, internationaliser l'agence qui était à Paris, ou c'était vraiment commencer à occuper les îles stratégiquement pour répondre à des besoins de clients?
Pour nous, c'était le début de la mondialisation. Nos clients aussi, c'était un morceau de France. Donc ils nous disaient, mais pourquoi vous laissez, comme ça, vous ne fertilisez pas ce morceau de France, pourquoi la publicité il serait différente, c'était chercher une fraîcheur qui commençait à nous manquer, parce que l'agence avait déjà 20 ans, 20 ans c'est l'âge où il faut se remettre en question, c'est l'âge où il faut bouger, il faut aller voir ailleurs, c'était tout ça mêlé.
D'accord. Et donc 30 ans après, Jacques Séguéla revient à la Martinique, avec, je suppose, des idées nouvelles, mais aussi une expérience tassée de beaucoup de choses, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en 30 ans. On a pu découvrir ça à travers des journaux comme Stratégie. Il n'y a pas une émission de télé qui parle de la pub et qui n'est pas comme référence Jacques Séguéla. Enfin, je veux dire, entre-temps, la personne s'est statufiée, on va dire. Pour beaucoup de publicitaires, Jacques Séguéla, c'est un référent. Alors, qu'est-ce qui a fait que, justement, il y a eu un tel leadership de votre part?
J'ai écrit des livres et je suis venu aussi présenter mon 30e livre. Il s'appelle « Le diable s'habille en GAFA », qui touche à la communication et qui touche surtout à cet état numérique qui est en train de se créer, ce danger numérique qui est en train de se créer, ce vol, ce viol de nos données... qui sont en train de parasiter la publicité et de devenir très dangereux. Donc j'ai beaucoup écrit sur mon métier. J'ai jamais refusé une interview, un débat, même au bout du monde, même au bout de la France, même dans le dernier des villages, même s'il n'y avait que 10 personnes à convaincre. Je La pub coule dans mes veines, donc c'est mon oxygène. Et si j'ai pas de pub, je suis comme les grenouilles sans oxygène. Elle meurt à petit feu en disant quac, quac, quac.
C'est ça. Est-ce que ça veut dire que vous considérez, Jacques Séguéla, aujourd'hui, qu'avec l'arrivée des GAFA, c'est toute la pub qui est remise en cause, c'est-à-dire toute la pub traditionnelle, tous les processus, comme les processus créatifs, les briefings et compagnie, ou est-ce que c'est les structures, disons, la méthodologie reste la même, mais avec, disons, des intensités différentes?
Il y a deux choses. Les GAFA nous ont d'abord attaqué sur le terrain financier, car ces 10 dernières années, nous leur avons amené l'argent de nos annonceurs. C'était un nouveau média qui faisait rêver, on pensait qu'il y avait des possibilités illimitées, on en est revenu, les grands sont revenus, le directeur de la publicité du plus grand annonceur du monde a supprimé cette année 1,2 milliard de ses dépenses dans le digital, parce qu'il dit, moi j'ai fait des études, j'ai un message sur deux qui est lu ou vu pendant 2 secondes, et un message sur deux qui est vu par un robot. Donc quand vous aurez mis de l'ordre, quand vous me prouverez l'efficacité, je reviendrai. Et cet annonceur, c'est Procter & Gamble, c'est le numéro un des annonceurs. Donc il y a ce danger-là, mais d'abord ils ont utilisé cette fortune que nous avons mis à leur disposition pour bâtir le plus grand hold-up du siècle, c'est-à-dire pour piller nos données, ce que nous avons de plus intime, sans demander notre aval, sans la moindre rémunération, sans payer leurs impôts, en toute vergogne, et comme s'ils étaient au-dessus des lois. Leur volonté est de construire un État numérique qui aujourd'hui fait le PIB de la France, qui dans 15 ans sera le PIB de l'Europe, qui dans 20 ans, dans 30 ans, sera le PIB du monde. Est-ce que nous voulons qu'une bande des quatre, puisqu'ils sont quatre, hein, puisque...
On peut les citer.
Hein, oui, c'est Google, c'est Apple, c'est Facebook et c'est Amazon, c'est les quatre grands de Silicon Valley. Mais à tous les quatre, ils vont constituer un État qui sera le plus riche de tous les États du monde et qui sera en possession de toutes les données du monde, en pouvant orienter comme ils voudront, et en ayant une mainmise sur notre intimité, avec en plus même le viol de nos enfants. Il y a 7 ans, il y a une poupée Barbie qui a été créée, qui est toujours en vente, même si la CIA essaie de la faire interdire, elle n'a pas pu, qui capte les premiers mots, les premiers pas de nos gosses à la sortie du berceau, qui les met dans des clouds et qui demain pourront les ressortir pour les manipuler à leur guise. Alors, ça n'exclut pas aussi qu'il y a tellement d'avancées dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'économie, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la biologie, qu'on ne peut pas remettre en cause les GAFA, on est obligé de vivre avec elles, ils veulent changer le monde, il faut rentrer dans le monde d'après. Et la publicité va être obligée de rentrer dans le monde d'après. Et par exemple, les chercheurs ont mis au point aujourd'hui un algorithme qui, si vous avez un petit bouton là sur le doigt, peut vous dire en 2 minutes si c'est un simple bouton si c'est un cancer de la peau ou si c'est un mélanome. Quel incroyable progrès! Et puis, en même temps, il y a des chercheurs de Stanford qui, avec les mêmes algorithmes, sur une simple photo, peuvent dire si vous êtes homosexuel ou pas. Et moi, je ne veux pas de ce monde-là. Je veux du bon Dieu des GAFA, celui qui va guérir le monde. Je ne veux pas de celui qui va pourrir les valeurs du monde et le respect de l'autre et la dignité du monde. C'est pour ça que, moi, je demande qu'il y ait un sommet numérique, comme il y a un sommet climatique, car le climat, c'est le danger du monde dans 50 ans. Le numérique, c'est le danger du monde demain matin.
Très bien. Alors, dernière question, Jacques Séguéla. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que c'est parce qu'il y a aussi une manne financière qui échappe à beaucoup de monde? Parce que quand on prend le cas de Google, quand on prend le cas de Facebook aujourd'hui, dans leur démarche, ils ont coupé tous les niveaux intermédiaires, les diffuseurs, les concepteurs. Ils font tout, ils donnent des outils aux uns et aux autres pour se débrouiller. Avec sa page Facebook, on peut communiquer à travers le monde. On peut devenir un gilet jaune. Vous voyez ce qui se passe en ce moment à Paris et ailleurs. Et est-ce que ce n'est pas justement cet ordre établi qui est complètement dérangé par ces GAFA qui fait qu'aujourd'hui, il y a aussi le type de réaction qu'on a en se disant « Oh là, oh là, oh là, oh là !»
Oui, d'abord, ils ne paient pas leurs impôts. Il faut savoir que Amazon, c'est 1 000 milliards de dollars. Que Apple, c'est 1 000 milliards de dollars et que Google va arriver aux 1 000 milliards de dollars. Donc c'est une espèce de fortune colossale, considérable. Si elle était utilisée comme le fait Bill Gates, qui est fortune faite, a dit, bon, ben maintenant, je prends 80% de ma fortune et qui entraîne d'autres milliardaires avec lui pour apporter aux petits Africains, tous les Africains d'abord, le savoir, qui sera leur seule façon d'arriver à survivre, à créer, à bouger et à devenir des hommes. Mais non, pas du tout. Eux, ils sont en train de s'acharner à vouloir créer un homme qui vivra 1000 ans. Il vivra 1000 ans, mais il vivra où ? Sur Terre, il n'y aura plus la place. Donc il vivra 1000 ans sur Mars. Et il fera quoi sur Mars ? Il aura épousé une robote. Qui a envie de vivre 1000 ans sur Mars en ayant épousé une robote ? Donc, ils ont perdu l'échelle des choses. Et puis, c'est fait en toute impunité quand on voit comment Zuckerberg, le patron de Facebook, a pu répondre aux sénateurs américains, sans même, en refusant d'ailleurs de répondre à leurs questions, avec une arrogance, une espèce de mépris que lui donne la puissance, que lui donne l'argent. Et donc, c'est quand même une société d'argent qui est en train de se construire et qui, je pense, va tuer le capitalisme. Parce que trop, c'est trop. On voit bien que les gilets jaunes en France sont en train d'imposer, et ils vont y arriver, ils vont imposer une démocratie participative. Donc c'est quand même la fin de la démocratie telle que nous l'avons vécue. Eh bien, ce sera la fin du capitalisme tel que nous l'avons vécu par excès.
Écoutez, Jacques Séguéla, on vous remercie d'être à notre micro. Merci aussi d'être à la Martinique, passez un excellent moment et nous viendrons participer à vos différentes conférences. À très bientôt, Jacques Séguéla.
À tout de suite.